Chose promise, chose due, on va lui parler, vous le connaissez très très bien. C'est évidemment quelqu'un que vous voyez maintenant sur les ondes, sur nos ondes sportives, RDS entre autres, et surtout, ben, on se souvient très bien de lui pour la dernière Coupe cette année du Canadien. Déjà, ça fait très longtemps, celle de 93, mais il a été une figure marquante de cette conquête-là, et il s'appelle Vincent Danfousse. Salut Vincent!
Salut, comment ça va? Ça va
très bien, toi-même?
Oui, merci!
Vincent, écoute, on est en train, on parlait tout à l'heure des camps qui vont commencer dans la Ligue nationale de hockey, puis on se disait maintenant, les gars arrivent au camp d'entraînement, top shape, on a l'impression qu'ils pourraient jouer un match le lendemain. Dans ton temps, Vincent, mon souvenir, c'est que les gars passaient l'été à boire de la bière puis à jouer à balle, là, c'était ça, là.
Dans les années 70, moi j'ai commencé en 86, fait que non, les gars se présentaient quand même assez... en forme, mais je te dirais que ça a évolué aussi, la préparation pendant l'été. J'étais mieux préparé vers la fin de ma carrière qu'en 1986, quand je suis arrivé à mon premier camp. Les gens ont plus de connaissances. On s'entoure maintenant aussi les athlètes. Ils ont des entraîneurs privés. Avant, ça n'existait pas. Fait que c'était laissé, on te laissait à nous-mêmes pas mal. On avait un genre de pamphlet là, avec ton entraînement de l'été, mais c'était pas mal rudimentaire là, comparativement à ce que c'est maintenant.
Il y avait pas des. T'as pas connu les clubs de balle, Vincent, toi, dans le temps?
Vers la fin, mais moi j'étais à Toronto, on faisait des tournées dans les Maritimes. Ça, c'était plus au mois de juin. On allait dans les marchés qui supportaient les Leafs. C'est la même chose pour le Canadien. Mais ça là, tranquillement, mes premières années à Montréal, on en faisait des matchs, mais c'est parti avec le temps. Je pense qu'on avait peur de blessures, puis le voyagement, les engagements au niveau... les gars voulaient rester avec leur famille un petit peu plus l'été, puis s'entraîner en préparation de la saison suivante.
Ouais, on parlait justement de 93, évidemment, ça demeure une année magique. C'est pour les gens ici de Montréal, ça demeure ceux qui ont connu ça, qui ont vécu ça, c'est un souvenir qui est impérissable. Puis je regardais les chiffres, Vincent, c'est assez hallucinant là. Cette année-là, vous aviez quatre compteurs de 80 points et plus, dont toi, évidemment, qui a été le meilleur cette année-là avec 97. On va-tu revoir ça un jour?
Quatre, je sais pas. On a un en ce moment qui a réussi, Suzuki. On avait une belle attaque qui était diversifiée. Puis c'est ce que le Canadien essaie de faire avec le noyau solide qui ont le jeune joueur talentueux. Mais avec Muller, Bellows, je crois que c'était de beau. Bellows et Muller qui avaient réussi. Qu'on avait une belle attaque. Quand tu regardes cette équipe-là, 93, on était quand même une équipe qui avait des bons vétérans, mais qui était très jeune. Moi, j'avais comme 24-25 ans. On avait des jeunes joueurs qui ont eu des carrières exceptionnelles. Je pense à John Leclerc, je pense à Éric Desjardins, même Patrice Brisebois qui a joué 19 ans, je pense, dans la Ligue nationale. Fait qu'il y avait des jeunes joueurs. On pensait qu'on était comme ordinaire comme équipe, mais quand tu regardes la carrière de chacun, là, on avait quand même une équipe assez solide.
T'as pas nommé le gars devant le filet qui était pas payé aussi?
Oui, Patrick, c'est un vétéran. Mais je parlais des. C'est sûr, Patrick, c'était le joueur le plus important de notre équipe, puis le meilleur joueur. C'est ce que on avait des vétérans dans les postes. Il y avait Carbonneau en avant qui avait déjà gagné. Il y avait Patrick qui avait déjà gagné, qui performait en séries éliminatoires comme aucun athlète avec qui moi j'ai joué. La différence entre performance en saison puis performance en série, comment tu abordes les séries, comment tu te prépares, comment tu performes. Patrick était le meilleur avec qui j'ai joué 18 ans quand même. J'ai vu des joueurs, là. C'est lui qui était capable d'élever son niveau le mieux.
Oui, puis c'était un joueur important, tu l'as dit. Puis aussi, on a entendu dire avec le temps, un joueur qui avait ses petites habitudes qui étaient particulières. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu te souviens de lui, de Patrick Roy, dans ces années-là?
Oui, Patrick était superstitieux, surtout en série. Il jouait avec le même bâton pendant toutes les séries éliminatoires. Puis ça, c'est très, très rare. Là. Quand tu es au niveau de la Ligue nationale, tu changes de bâton tous les matchs. Là. Fait que son bâton de match, il était serré. Il pratiquait pas avec. Il faisait juste jouer les matchs. Puis quand le match finissait, Bobby Boulanger prenait ce hockey-là puis il allait s'assurer qu'il était bien caché. Patrick, à chaque, entre les périodes, on a une horloge là, qui reste 20 minutes avant qu'on embarque sur la patinoire. À chaque minute, il y avait quelque chose qui se passait. Fait que c'était comme une danse avec les trainers. Fallait pas que tu sois, fallait pas que tu t'accroches dans ses pads, dans ses mitts. Il y avait comme un genre de cercle de sécurité autour de son spot parce que Patrick, il voulait les choses d'une certaine façon. Puis ça l'aidait à se concentrer puis rester dans sa bulle.
Oui, ça a fonctionné de toute évidence. C'est ce qu'on a vu. Et quand tu voyais ça entre les périodes, donc les gars, ils parlaient pas, puis t'allais pas autour de lui, il fallait même pas que tu t'approches de lui.
Non, on parlait, on faisait. Chaque joueur avait sa petite routine, mais Patrick avait la sienne, puis on savait que il fallait le laisser tranquille. Il y en a d'autres qui comptaient des jokes, il y en a d'autres qui. On avait chacun des choses à faire, puis je pense que c'est important. C'est pas une. Moi, il y en a qui sont superstitieux, puis il y en a qui sont routiniers. Moi, j'étais routinier. Si je pilais sur une ligne, ça ne me dérangeait pas, là, mais je faisais mes choses toujours de la même façon. Ça faisait partie de ma préparation à des matchs, puis entre les périodes, c'est la même chose. Puis, tu regardes n'importe quelle équipe, tu regardes une séance d'entraînement ou de warm-up, là, pré-match. C'est toujours la même chose. Les joueurs vont toujours à la même place. Les lancers, c'est toujours le même gars qui va prendre le premier lancer. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, c'est un peu le chaos, là. Fait que, c'est très, très organisé dans les séances pré-match à cause de ça. Les joueurs se préparent pendant une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes pendant le warm-up. Et le gardien, c'est exactement qui va lancer quand. Puis, c'est comme ça que ça fonctionne.
Puis il y avait aussi, je pense, en 93, Vincent, le coach, hein, qui vous avait donné une petite carte, Jacques Demers, avec un message inscrit dessus. Puis si t'avais pas ta carte, t'avais une amende. Hein. Fallait que t'aies la petite carte sur
Ouais,
toi à tout moment.
ça, c'était
Là.
c'était un jeu, puis en même temps, c'était un genre tu pouvais pas te promener à l'extérieur de l'aréna sans avoir cette carte-là. Puis quand on arrivait, des fois, les joueurs se faisaient demander, OK, t'as-tu ta carte sur toi? Puis si tu l'avais pas, oui, t'avais une amende de 50 $. Mais c'était plus drôle que d'autres choses, mais c'était une habitude. Puis juste je pense que le message, c'était pas d'oublier c'était quoi le but ultime pour nous, même si on avait du temps ou ce qu'on retournait à la maison, puis on faisait d'autres choses. C'était toujours pour nous autres important pendant ces 2 mois-là, très intenses, que notre but ultime, c'est de gagner la Coupe Stanley. Fait qu'il fallait être prêt en tout temps, puis il fallait faire les choses de la bonne façon. Puis même à domicile, quand on avait un match la veille, on couchait à l'hôtel, ce qui était rare à l'époque. Jacques et Serge avaient décidé de nous amener souper la veille des matchs, puis après ça, on retournait à l'hôtel, puis on couchait à l'hôtel pour en préparation du match à domicile.
Étiez-vous à Alcatraz?
Non, on était en ville, on était au Grand Hôtel à l'époque. C'était à 10 minutes du forum, là. On était au centre-ville.
Ah, OK, c'était beaucoup mieux qu'en 86. En 86, les gars étaient allés le charron à l'autre bout, là.
Oui, non, 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 t'es pas là. T'es pas là au
OK.
centre-ville.
Et la carte, elle est où? L'as-tu encore sur toi, la carte, Vincent?
Non, le seul qui l'a, je crois, c'est Stéphane Lebeau. Donc, moi, je l'ai. Mais en fait, la mienne, je l'avais donnée à un de mes chums. Puis, tu as raison, quand tu me poses la question, il me l'a redonnée il y a à peu près 2 ans, puis dans mon tiroir en haut. Fait que moi, j'avais complètement oublié ça, là. Il y a des choses, c'est drôle, parce que moi, je me souviens de certaines choses. Il y en a d'autres qui se souviennent d'autres choses. La carte, j'avais pas mal oublié ça, là. Mais quand on a eu la réunion des 30e, pour célébrer le 30e anniversaire de la Coupe Stanley, on s'est retrouvés ensemble à Montréal, mais les histoires de chacun sont différentes. Tu sais, on a des souvenirs différents de ce qui s'est passé pendant les 2 mois. Il y a des choses que moi j'avais complètement oubliées, là.
Et il t'a parlé du bâton de Patrick. Il y a un autre bâton en 93 qui a fait jaser, puis c'était en finale. C'était celui de Marty McSorley qui s'est fait prendre avec un bâton illégal. Puis Vincent, au fil des années, il y a toutes sortes de théories qui ont circulé. McSorley, avec le temps, a accusé certains joueurs du Canadien d'avoir fait de l'espionnage, puis d'avoir fouillé dans le rack de bâtons des visiteurs. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Comment en êtes-vous venu à savoir que McSorley se promenait avec un bâton illégal?
Ben, faut comprendre qu'à l'époque, il y avait ce règlement-là. Aujourd'hui, il n'existe plus ce règlement-là, là, mais selon moi, il y avait ce règlement-là pour protéger les gardiens de but. Au début, il n'y avait pas de masque. Là, il y a eu des masques, puis des lancers hauts, c'était dangereux. Donc, il y avait encore ce règlement-là en 93, puis la moitié des joueurs, je te dirais, jouaient avec des bâtons illégaux parce que ça prenait pas grand-chose comme coupe pour être illégal. Puis ce que les joueurs faisaient, dont moi, là, j'avais des bâtons illégaux, c'est que j'en préparais trois qui étaient à mon goût, puis j'en préparais trois qui étaient presque droites, la palette, pour m'assurer que je me fasse pas prendre dans une situation où on était en avance d'un but avec 10 minutes à jouer dans la période, et surtout en séries éliminatoires. Donc, la plupart des joueurs se préparaient de cette façon-là, mais si un joueur avait un bâton illégal comme Mick Sorley, pendant le match, j'ai pas besoin de voler son bâton dans un rack qui est complètement farfelu parce que tu le vois, tu le sais, pas à 100%, là, mais si ça prend, c'est facile à voir que le joueur joue avec un bâton illégal. Sauf que personne ne le faisait en première période, deuxième période. Il n'y a pas d'entraîneur qui allait faire un appel comme ça. Pourquoi, je ne sais pas, mais il attendait un moment opportun pour essayer d'aller gagner le match. C'était peut-être mal vu aussi d'appeler un joueur en première période pour un bâton alors qu'il était en séries éliminatoires. Fait qu'on savait que McSorley avait un bâton illégal, il y avait Robitaille qui avait un bâton illégal qui était assez clair. Il y en a probablement d'autres, mais qui étaient moins évidents. La différence, c'est qu'avec 2 minutes à jouer, Marty McSorley était sur la patinoire. Donc, il faut que tu sois sur la patinoire pour pouvoir appeler. Et il y avait encore ce bâton-là. Donc, c'est là que Jacques a pris la décision qui n'était pas facile à prendre parce que si tu te trompes, t'as de la fou pas mal. Mais il y a eu le guts d'appeler le bâton de McSorley alors qu'on était en retard de un but. Ça nous a donné un avantage numérique en zone offensive. Et l'autre chose qu'il a fait aussi pour égaler la marque et pour nous aider, c'est qu'il a enlevé Patrick Roy avec 2 minutes. Aujourd'hui, on enlève les gardiens de but avec 3 minutes. Mais à l'époque, là, tu n'enlevais pas ton gardien de but avant la dernière minute de jeu. Fait que, avant la mise en jeu, il a décidé d'enlever Patrick, d'ajouter un John McLaren avant du filet, qui a fait la différence parce que quand Éric Desjardins a lancé, il a passé entre les deux jambes à John. Qui a voilé Rudy devant le filet. Fait que c'est tous des gestes comme ça, des petits gestes qui peuvent changer une série, puis c'est ce que ça a fait pour nous autres. On a égalé la marque 1-1 dans les matchs, puis on n'a pas perdu un après, on a gagné les 3 matchs suivants.
Et je suis sûr qu'à chaque jour, ou à peu près, Vincent, tu te fais encore parler de ça, hein, de cette année-là, de cette série-là. Ça a vraiment marqué les esprits 93.
Ben, ça a marqué le mien. En tout cas, c'est l'année de mes 18 ans que je me souviens le plus. C'était ma première année à Montréal. J'arrivais d'Edmonton en août 92. Je me retrouve en juin 93 avec la Coupe Stanley à Montréal, au Forum, devant mes parents, mes amis. Fait que pour moi, c'était une année vraiment fantastique qui a marqué ma vie. Oui, on m'en parle encore. C'est la dernière du Canadien, dernière Coupe Stanley même pour une équipe canadienne. Donc, on reste toujours un peu dans les conversations à cause de ça, mais ça démontre comment c'est difficile de gagner les Coupes Stanley maintenant. Il y a de plus en plus d'équipes. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait 21 équipes. 21 équipes. Aujourd'hui, il y en a 32. Je serais pas surpris qu'on en ajoute encore. Donc, ça prend plusieurs choses qui tombent en place pour réussir à gagner.
Ben justement, on veut te parler de ça puis de ce qui s'en vient pour le Canadien d'aujourd'hui. Vincent, tu peux rester encore un peu avec nous?
Oui.
OK, parfait. On fait une petite pause. On revient avec toi tout de suite après et on parle du Canadien de 2025-2026. On poursuit notre discussion avec Vincent Danfousse. Et Vincent, avant la pause, on parlait évidemment de 93. On parlait des quatre compteurs de 80 points cette année-là et toi-même, 97, pas trop loin de 100. Il y a un gars qui en a fait 89 l'an passé, tu en parlais, Nick Suzuki. Vincent, c'est-tu le potentiel d'un gars de 100 points pour le Canadien? Ça peut-tu arriver, ça?
Oui, il y a le potentiel, c'est sûr. Moi, j'ai passé proche à plusieurs reprises. J'ai eu 97, c'est ma meilleure saison. Mais dans le cas de Suzuki, ce qui était impressionnant, c'est qu'il améliore ses statistiques à chaque année, depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale. Donc, le plafond, on ne sait pas, il est où encore. Puis, avec le talent qui rentre, puis, faut pas oublier Lane Hudson puis Noah Dobson qui sont maintenant ajouté à l'alignement qui n'était pas là quand Suzuki a commencé, même il n'était pas là avant l'année passée. Ça fait une grosse différence quand tu as un bon avantage numérique, puis quand tu as des défenseurs offensifs comme ça qui sont capables de relancer l'attaque rapidement et avec deux joueurs extrêmement talentueux en arrière, alentour de lui aussi. Fait que c'est possible pour Nick. Si l'avantage numérique est dans le top 5, puis il continue à s'améliorer comme ça a sa portée.
Et ce sont des plateaux, Vincent, étrangement, là, t'sais, on parle de 100 points, on pourrait parler de 40 buts dans une saison, ce sont des plateaux que ça fait très, très longtemps qu'il n'y a personne chez le Canadien de Montréal qui a atteint ces plateaux-là. Tu vois des gars, là, présentement, on vient de parler de Suzuki, tu as parlé de Caulfield, c'est des gars qui peuvent peut-être enfin atteindre ces plateaux-là chez le Canadien?
Oui, Caulfield, 40 buts, pour moi, c'est sûr que c'est atteignable, là. Il a marqué toute sa vie. Fait que c'est vraiment un naturel, un talent. Il joue avec un gars comme Suzuki qui le cherche sur la patinoire. C'est un duo qui est de plus en plus solide. Et même chose pour lui, avec Lane Hudson, il va marquer plus de buts. Avec Noah Dobson, il va marquer plus de buts. Il va avoir plus de touches, plus de joueurs talentueux qui vont le trouver. Ce que ça fait aussi, c'est que ça débloque. Quand tu as plusieurs joueurs de talent, ben c'est difficile pour l'adversaire de se concentrer sur toi seulement pour essayer de contrer,
Oui.
te contrer et d'essayer de gagner le match. Quand tu as plusieurs menaces comme ça, ben ça c'est plus compliqué de se concentrer juste sur un joueur. Fait que pour Suzuki, au niveau des points, même les buts, ça pourrait être Suzuki qui marque 40 buts, puis Caulfield. Ça pourrait être Lane Hudson ou Noah Dobson qui obtient 100 points. Moi, je serais pas surpris que Lane Hudson ait un point par match très, très rapidement, puis qu'il s'approche, là, lui aussi, là. C'est vraiment un joueur exceptionnel.
Es-tu surpris, Vincent, quand même, que ça fait si longtemps, on parle des 100 points, on parle des 40 buts, que ça fait si longtemps qu'il n'y a personne chez le Canadien qui a atteint ces chiffres-là?
Oui, quand je l'ai fait, moi, je m'attendais moi-même à le refaire. C'est pas arrivé. C'est sûr que tu penses pas à ça. Tu dis pas que ça va prendre 30 ans avec un autre. Même chose pour la Coupe Stanley. Je pensais jamais que ça allait prendre autant de temps, mais ça démontre comment c'est difficile. Et puis, ce que ça prend pour avoir 100 points ou 40 buts, c'est premièrement, faut pas que tu sois blessé. Faut que tu sois toute l'année. Puis Suzuki n'a pas été blessé depuis le début de sa carrière. Fait que ça, c'est l'avantage qu'il a eu. C'est qu'il est très, très durable. Il voit les coups venir, puis il se protège bien. Faut pas que tu sois blessé. Faut pas que tu aies des léthargies qui soient trop longues. Faut que tu sois constant tout au long de l'année. Faut que tu joues dans une bonne équipe. D'habitude, ça arrive des gars qui ont 100 points, 40 buts dans les mauvaises équipes, mais d'habitude, faut que tu sois bien entouré. Faut que l'équipe, en général, marque beaucoup de buts.
Là, on va pas parler de Coupe Stanley. C'est probablement encore trop tôt, Vincent. Je pense que tu vas être d'accord là-dessus. Mais penses-tu au moins que l'équipe s'en va dans cette direction-là? Là? T'sais, il a été, récemment, ça a été difficile. On a parlé de reconstruction, choses comme ça. Mais as-tu l'impression que là, ça se rapproche du but ultime un petit peu, là?
Oui, on s'améliore d'année en année. Puis ce que je remarque, on le voit au repêchage, là, c'est qu'au lieu d'échanger des joueurs pour aller chercher des choix, là, on échange des choix pour aller chercher des joueurs de qualité, des joueurs établis, des vedettes même de la Ligue nationale. Puis, quand on a changé nos choix 16e et 17e de la première ronde cette année avec Emil Heinemann pour aller chercher Noah Dobson, c'est pas quelque chose qu'on aurait vu il y a 3 ans parce que l'équipe était pas prête à faire ces gestes-là. Là, on veut gagner, on veut essayer d'améliorer l'équipe tout de suite, puis compléter ce qu'on a comme noyau. Des nouveaux jeunes joueurs qui vont s'ajouter à ce noyau-là. Puis si on a une opportunité de faire un échange, ben on va le faire pour aller. Il reste encore des trous. Fait qu'on n'est pas prêt encore, mais on n'est pas loin. Ça va vraiment dépendre de ce que Kent Hughes est capable de concocter comme échange. On a besoin d'un deuxième centre encore. Puis faut solidifier aussi le quatrième trio, le support alentour de nos joueurs clés. Fait qu'il y a du travail encore. On a une jeune défensive. Fait que c'est de voir comment ce club-là va maturer. Dans les buts, même chose. Montembeault était bon. Mais quand on compare avec les grosses puissances de la Ligue, on a encore du chemin à faire, mais moi, j'ai confiance au trio en place. Avec, Kent Hughes, Jeff Gorton, pour prendre des décisions à hockey, puis Martin St-Louis comme entraîneur. C'est vraiment un trio fantastique. Puis je le sens, moi, quand on rencontre les joueurs, tu vois qu'il y a une grande confiance qui s'est installée entre les joueurs et le management.
Ah, ben avant de te laisser aller, Vincent, tu as parlé du deuxième centre. Et là, on verra évidemment de son état de santé. Kirby Dack, on ne sait pas trop s'il va être capable, oui ou non, d'arriver en début de saison en santé. On rappelle qu'il a été opéré au genou, là, c'était en février. S'il est en santé, penses-tu que c'est quand même Kirby Dack qui est la réponse pour le poste de deuxième centre?
Je pense pas que c'est la réponse. Bon, on a essayé, puis ça a pas fonctionné.
Ouais.
Ça veut pas dire que par miracle, il deviendra pas le joueur de deuxième centre qu'on pensait qu'il était. Puis ça arrive. Tu fais des échanges des fois qui sont c'est un grand succès. Des fois, tu te retrouves avec des joueurs comme ça qui étaient repêchés très haut, qui avaient le physique de l'emploi, puis un bon lancer, tout ça, mais il n'a pas réussi à produire pour être un deuxième centre. Et puis moi, je ne le vois pas, mais peut-être que l'équipe a l'espoir que ce soit lui, mais je pense pas. Je pense vraiment qu'on essaie de trouver quelqu'un qui n'est pas dans l'organisation encore. Selon moi, celui qui pourrait l'être, quel profil, c'est Age, qui a été repêché, qui a eu beaucoup de points à Chicago dans la USHL, qui est allé à l'université américaine, qui a produit, je pense qu'il a fini premier marqueur, de mon moment, c'est Michigan ou Michigan State, là. Puis il y a une progression fulgurante. Fait que lui, pourrait, dans 2, 3 ans, être le joueur qui va avoir 60, 70 points à terme, 80 points peut-être. Un joueur de talent qui est capable de jouer ce rôle-là. Le cas de Doc, ben, il a été blessé, oui, mais même quand il était en santé, il n'a pas réussi à produire d'une façon constante. Donc, pour moi, ce n'est pas la solution.
Et ça sera probablement le dossier numéro un à surveiller, hein, n'est-ce pas, Vincent, au cours des prochaines semaines? Parce que si en plus Dak n'est pas en forme, là, on a un gros, gros point d'interrogation là, au poste de deuxième centre.
Ouais, pour moi, c'est pas le gros dossier, Kirby Dack. C'est un dossier, mais c'est plus devenu un joueur clé pour l'organisation. Fait que je pense pas que le club attend ça, puis qu'il va avoir un miracle qui va se passer. On sait ce qu'on a avec Kirby Dack. Moi, j'ai vu assez de matchs pour dire que c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur clé dans l'organisation qui va faire une différence comme deuxième centre. Puis ça n'empêche pas Kirby Dack d'être un bon joueur, là. Je fais juste pas dire, faut quand même évaluer les joueurs de la bonne façon. Puis on a espéré à 22, 23, 24 ans, là, je pense qu'il est rendu à 25, là. C'est quand même il devrait être dans ses meilleures années de sa carrière, là. Puis à date, il a pas le profil qu'on pense qu'il avait.
Ben, c'est un constat que nous sommes plusieurs à faire. Alors, on verra ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, là, les camps qui s'en viennent. Déjà, Vincent, alors, on aura peut-être des débuts de réponse. Mais en attendant, merci beaucoup pour ton temps ce matin avec nous. C'est très apprécié.
Ça me fait plaisir. Merci. Bonne journée.
Merci. Bonne journée à toi, Vincent Danfous. Le joueur légendaire de 93 et qui est encore très, très bien au fait des actualités du Canadien de Montréal. Alors, c'était une très belle conversation avec lui ce matin. Et nous, ben, on fait une petite pause et on revient tout de suite après.